Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h ce soir. Les 35 heures sont-elles responsables de tous nos malheurs ? Dans la famille des passions françaises, je demande les 35 heures. Rarement une loi adoptée par le Parlement aura continué 15 ans plus tard de faire débat. Politique de l'emploi la plus efficace pour les uns, réforme responsable de l'affaiblissement de la France pour les autres, c'est peu dire que le bilan des 35 heures est contrasté. La réduction du temps de travail était l'une des mesures phares du gouvernement Jospin. Travailler moins pour travailler tous, un outil contre le chômage de masse tout autant qu'un projet de société. Alors si on leur reconnaît la création d'environ 350 000 postes entre 1997 et 2002, on leur reproche aussi de coûter cher, d'être trop rigide, d'avoir augmenté le coût du travail, bref, d'avoir plombé la croissance. L'avant-projet de loi sur le travail, dit El Khomri, qui doit passer la semaine prochaine en Conseil des ministres, prévoit justement de nouveaux assouplissements. Alors, révolution sociale ou erreur historique, les 35 heures sont-elles responsables de tous nos malheurs ? C'est notre sujet du jour. Deux invités ce soir pour en discuter. Sandrine Rousseau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et vous êtes aussi porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts. Vous étiez vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais de 2010 à 2015. Et parmi vos ouvrages, alors le plus récent qui n'a rien à voir avec le sujet, mais que on tenait à citer, Manuel de survie à destination des femmes en politique, paru aux éditions Les Petits Matins en 2015. Et puis l'ouvrage collectif Du balai, point d'exclamation, aux éditions Raison d'agir, paru en 2011 et qui traitait notamment du travail précaire. C'est cela.
Ouais, des travailleurs pauvres, du travail précaire et des services à la personne. Et ça fait partie des secteurs dont on va discuter ce soir, je pense.
Pour discuter avec vous, Laurent Bigorgne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne est donc think tank qui s'intéresse à de nombreux champs, dont évidemment le champ de l'économie, du social, du politique. Vous publiez à l'Institut très régulièrement des notes d'analyse, mais aussi de propositions. La dernière, parue en février, c'est sur les retraites, pour une réforme durable. Et concernant notre sujet, vous aviez publié en 2014 « Temps de travail, mettre fin au blocage ». Alors, en 2015, au sujet des 35 heures, la sociologue Dominique Méda, confiait, c'était aux Inroc, « La gauche a fini par ne plus oser défendre cette politique ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Sandrine Rousseau, et du coup que aujourd'hui la loi El Khomri vient quelque part briser un tabou à gauche?
La loi El Khomri, elle revient sur des éléments absolument essentiels en termes de législation sur le travail dans notre pays. Et on va y revenir dans l'émission, mais grosso modo, elle revient sur deux choses qui sont à mes yeux essentielles et qui sont une fracture vraiment idéologique à gauche, puisque maintenant, c'est pas une fracture idéologique entre la droite et la gauche, malheureusement, c'est au sein de la gauche. La première, c'est que les accords de branche, les syndicats, les négociations entre syndicats de salariés et syndicats patronaux peuvent être supérieurs au contrat entre individus et en l'occurrence entre un salarié et son chef d'entreprise. Donc en fait, il y a la question de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire comment on protège les salariés. Et la seconde chose sur laquelle elle revient, c'est que mieux vaut partager le travail entre tous que de travailler plus pour gagner plus, ce qui était quand même un slogan de droite à une époque. Et aujourd'hui, on est face à un slogan qui serait travailler plus pour pas gagner plus, qui quand même est une défaite un peu idéologique forte, quoi.
Donc si je comprends bien pour vous, aujourd'hui, à la question, est-ce que la loi El Khomri enterre les 35 heures
Oui, elle les enterre, oui.
Laurent Bigorgne.
En réfléchissant à l'émission, je me disais que j'avais du mal à expliquer au fond ce qu'étaient les 35 heures. Alors, moi, je ne suis pas compétent pour entrer dans le débat politique de la gauche ou de la droite et des différentes fractures. En réalité, ce que je regarde, c'est que c'est un texte qui a été pris en 98 sur la base d'une promesse de 97, et puis adopté en 2000 et généralisé en 2002, c'était déjà il y a 15 ans, dans une autre économie, avec une autre croissance, à un moment où le digital n'avait pas fait irruption, et à un moment où la question des pays à bas coût, ne respectant pas nécessairement les normes sociales auxquelles je suis attaché, qui sont en vigueur en Europe, donc à un moment où cette émergence n'avait pas encore eu lieu. Et c'est vrai que je considère que dans l'analyse qu'on doit faire, sur un peu, au fond, déjà une moyenne période, Vous insistiez tout à l'heure sur les créations d'emplois des 35 heures sur lesquelles on peut débattre. Qu'est-ce qui a vraiment permis de créer de l'emploi?
Et on va en débattre.
Qu'est-ce qui a vraiment permis de créer de l'emploi à l'époque? Et je m'intéresse moins à la quantité de temps travaillé. Je pense que c'est pas tellement le cœur du sujet aujourd'hui. Le cœur du sujet, pour moi, il est double. C'est d'une part l'élément de rigidité que ça peut créer face à une économie qui doit s'adapter. Et puis, l'élément de fracture que ça peut constituer dans une société où vous avez des gens qui sont exposés à un certain type de législation et d'autres pas. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que aujourd'hui, on sera sans doute en désaccord là-dessus, mais le secteur privé doit continuer de poursuivre cette politique qui permet au fond d'ajuster le temps de travail aux besoins des entreprises. J'ai un vrai problème s'agissant de la fonction publique, même des fonctions publiques, parce que je pense que les effets dans 35 heures dans la fonction publique sont de longue portée, qu'on en voit aujourd'hui l'inscription dans la situation parfois même budgétaire de notre pays. Et je me dis que là, il y a des situations qui sont assez préoccupantes et que le politique refuse d'affronter, parce que dans la loi El Khomri, on va pas parler des fonctions publiques. On va parler que du secteur privé à nouveau.
Alors on va revenir un peu justement sur ces différences entre secteur public, secteur privé par rapport à la réduction du temps de travail. Simplement, vous avez dit, ce que vous reprochez aux 35 heures, ce n'est pas tant donc le chiffre 35 quelque part, si j'ai bien compris, mais le fait que ce soit un chiffre uniforme pour tout fixé dans la loi et pour toutes les entreprises. Donc à vous écouter, on pourrait imaginer que des entreprises fixent une durée légale à 39, à 40, d'autres à 32.
Écoutez, le chiffre 35, d'ores et déjà, il n'a plus qu'une réalité aujourd'hui, c'est qu'il fixe, il est ce qu'on appelle le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ce qui est maintenu dans la loi El Khomri.
Ce qui est maintenu dans la loi El Khomri. Enfin, un avant projet de loi qui va devenir un projet de loi, puis peut-être une loi. Et au final, c'est pas une norme. C'est-à-dire qu'il y a moins de rigidité, que ce qu'il y avait au début, parce qu'il y a eu pendant 15 ans un travail législatif à gauche comme à droite d'ailleurs pour assouplir. Ce qu'on pourrait reprocher rétrospectivement au législateur en 98 et 2000, c'est qu'il a voulu mettre la même taille à tout le monde. Moi, je fais pas du 44 ni du 38. Et j'admettrai pas qu'on me mette des vêtements qui sont pas à ma taille. Donc, il y a de ce point de vue-là, à mon avis, d'ores et déjà eu beaucoup de souplesse, sans doute pas assez. Si je regarde un petit peu l'actualité du débat dans les entreprises, on se rappelle des accords Renault en 2013, avec manifestement aussi une évolution de l'opinion publique. Ce qui me frappe aussi beaucoup dans les sondages, c'est que ce thème bouge. Je reste pas fixé sur les sondages, mais on voit qu'il y a une moins grande allergie, par exemple, des Français à la discussion sur les 35 heures, qu'à l'âge, par exemple, de la liquidation des droits à pension, c'est-à-dire de départ en retraite.
Sandrine Rousseau, est-ce que vous pourriez concevoir une durée légale du travail à la carte?
La durée légale du travail, ça fait partie des combats les plus anciens des salariés et de leurs représentants. C'est depuis le 19e siècle où, quand il n'y avait pas de loi sur le travail, légalisant la durée maximale de travail, alors on avait des journées de travail de 14-16 heures. Et c'est justement par le combat des salariés qu'on a obtenu petit à petit, dès le 19e siècle, des journées par exemple à 10 heures, d'abord pour les femmes et les enfants, puis après pour les hommes. Et là, revenir à une époque où il n'y a pas de limite de durée du travail, c'est où ouvrir la possibilité de tous les abus. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les entreprises, le salarié et le chef d'entreprise qui embauche ne sont pas égalitaires et ne sont pas dans une situation d'égalité. Et le principe dont partent toutes les analyses qui disent qu'il faut libéraliser le marché du travail, il ne faut plus de règles parce que n'importe quelle règle, n'importe quelle loi entrave le marché du travail, ce raisonnement-là part du principe qu'on s'échange du travail sur un marché exactement comme on s'échange des boîtes de petits pois sur le marché. C'est-à-dire que si vous avez des stocks de petits pois invendus, eh bien il faut que vous baissiez le prix des petits pois et comme ça ils seront vendus. Et c'est exactement le même raisonnement qui dit c'est parce qu'il y a trop de législation sur le travail, c'est parce qu'il est trop cher qu'on doit baisser son prix et comme ça les chômeurs disparaîtront. Sauf que ce raisonnement en réalité est assez simple, pour ne pas dire simpliste, parce que c'est nier complètement le fait que un salarié ne peut pas facilement dire non à son patron, c'est nier complètement le fait qu'on ne vend pas un travail comme on vend n'importe quelle marchandise, et c'est nier aussi la valeur symbolique du travail et ce qu'il a comme implication sur la vie, quand on en a, quand on n'en a pas, quand on en a trop aussi, parce que un des gros avantages des 35 heures dont on a très peu parlé, mais il y en a d'autres, mais un des gros avantages, c'est qu'il a permis de retrouver des temps familiaux. Je regardais les temps de loisirs, l'évolution des temps de loisirs des personnes, et quand je parle de temps de loisirs, je ne parle pas de temps de farniente ou de paresse, hein. Je parle de temps avec sa famille, avec ses enfants, à faire du sport, à fréquenter les lieux de culture, etc. Ce temps de loisir a progressé de 2 heures par semaine. C'est énorme. Et quand on regarde comment ces 2 heures ont été utilisées, ce sont des temps familiaux, essentiellement. Et qui en a bénéficié le plus? Les hommes. Et donc, la question derrière, c'est quel modèle de société on veut? Est-ce qu'on veut une société où on travaille de plus en plus, où on détruit de plus en plus les temps collectifs, qui sont des temps pour aller dans des associations, pour aller dans des espaces culturels et simplement pour vivre en famille sereinement? Et ou alors, est-ce qu'on se dit que cela n'a pas d'importance et que mieux vaut vendre des petits pois? Et dans ces cas-là, eh bien, on baisse le coût, on baisse la régulation et on estime que c'est ça l'avenir de notre société. Moi, je pense profondément que notre contrat social n'est pas celui-ci et qu'il est même dangereux d'y revenir.
On travaille 150 heures de moins en moyenne par an que les pays de l'Europe. Et donc, ce manque de travail pénalise notre économie, pénalise notre capacité de croissance.
Quand nous avons fait le choix des 35 heures, ça a été une erreur historique. Je le dis parce qu'il est important de comprendre que faire le choix de travailler moins quand partout dans le monde on fait le choix du mérite, de l'effort et du travail, d'accord, c'est une erreur historique.
La gauche, je dois le dire, n'est pas exempte de critiques particulières. Elle a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, ou au moins sans elles. Que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées.
Petite compilation, vous avez entendu successivement Nicolas de Benzmann, président de Croissance Plus, Nicolas Sarkozy et enfin Emmanuel Macron. On parlait des clivages tout à l'heure, alors sans rentrer dans les détails des partis politiques, est-ce qu'on peut dire quand même, Laurent Bigorne, que le discours dominant aujourd'hui est celui d'une critique très très forte contre les 35 heures?
Je ne sais pas si c'est le discours dominant aujourd'hui, mais j'aimerais revenir sur un ou deux éléments qu'a précisé Sandrine, parce qu'ils sont importants. Premièrement, personne ne propose de mettre fin à des durées plafonds du travail hebdomadaire. Ça n'aurait aucun sens. Il y a en plus des traités qui engagent la France et qui, de ce point de vue-là, nous limitent, et fort heureusement. Il faut garder.
Alors ce plafond est à 48 heures semaine quand même.
48 heures, mais
ou 60 heures semaine même parfois.
C'est un plafond. Hein, je veux dire, personne n'envisage de mettre fin à ça.
Donc, plafond garanti pour l'Europe.
Je redis, les 35 heures aujourd'hui, c'est essentiellement une durée au-delà de laquelle on déclenche des heures supplémentaires. C'est que dans très peu de cas, c'est la durée effective du travail. Soit c'est plus, soit c'est moins, soit c'est pas du tout, s'agissant des gens qui sont au chômage. J'aimerais revenir également sur l'argument de la meilleure allocation du temps, du choix entre vie de famille et travail. Bien sûr. Seulement, il ne faut pas oublier de dire à ceux qui nous écoutent que cette loi a eu un coût dans sa mise en œuvre, c'est qu'on a aussi affaibli le pouvoir d'achat d'un certain nombre de salariés, puisque de facto, on a vu les salaires progresser moins vite après les 35 heures qu'avant. Tout simplement parce qu'il a bien fallu compenser, et pas seulement par des exonérations de charges sociales, d'une certaine façon, les 4 heures, les 10%, les 11% de temps de travail qui avaient été ainsi donnés.
Laurent Bigorne, sur ce point précis justement, Sandrine Rousseau, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat que les Français ont connu une baisse du pouvoir d'achat depuis la mise en place des 35
Certains
heures?
Certains Français.
Alors déjà, c'est pas le cas du tout de tous, puisque ça s'est réparti à peu près à 50%, 50-50. C'est vrai que pour 50% des salariés dans les entreprises, il y a eu un gel, et non pas une baisse, mais un gel du salaire pendant 2 ou 3 ans, et après ça a repris dès la 3e année. Donc en réalité, il n'y a pas eu de baisse si conséquente que ça du pouvoir d'achat. Mais surtout, ce que je voudrais dire, parce qu'on a entendu dans les extraits qu'en France, on travaillait 150 heures de moins par an que dans d'autres pays en Europe. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que déjà la France, on ne travaille pas moins qu'ailleurs. Par exemple, on travaille plus qu'au Danemark, on travaille plus plus qu'en Allemagne. Il faut le savoir, en moyenne de, en durée moyenne du travail, les salariés français travaillent plus que en Allemagne et que dans beaucoup de pays du Nord. Donc c'est pas vrai qu'on a qu'on est comme ça exceptionnel en Europe. Et notamment pourquoi ? Parce que dans les pays où la durée du travail est très longue, typiquement en Angleterre par exemple, eh bien c'est développé deux types d'emplois. Et ça, ça s'observe dans l'ensemble des pays qui mettent en place ces mesures de libéralisation du marché du travail et donc de relèvement des plafonds d'heures. C'est qu'on a des salariés qui sont à temps plein dans des CDI et souvent assez bien payés et qui travaillent, eux, beaucoup. Et on a à côté de ça tout un tas de salariés qui sont sur du travail en miettes, sur des emplois qui font quelques heures par semaine. Et le nombre de contrats comme ça se sont multipliés en Europe. Évidemment, on connaît les lois Hartz, mais en Allemagne, mais on connaît aussi en Angleterre les contrats à zéro heure qui permettent comme ça de travailler que quelques heures. Et en fait, on a une société complètement duale qui se met en place, avec d'un côté des personnes qui sont complètement insérées, qui ont une situation stable et un pouvoir d'achat correct, et de l'autre côté, tout un tas de personnes qui sont complètement déclassées socialement et avec une explosion du phénomène de ce que l'on appelle les travailleurs pauvres et de tout ce que ça génère derrière de souffrances, de maladies, d'explosions familiales, de pauvreté, d'extrême pauvreté d'enfants. Enfin, voilà.
Est-ce que remettre en cause les 35 heures, ça accentuerait ce marché du travail très dual et très inégal que vous venez de nous décrire ?
Oui, parce que dès lors que vous augmentez le nombre d'heures des salariés qui sont dans votre entreprise, vous n'embauchez pas de nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas... c'est même quelque chose de très étonnant de dire, pour diminuer le chômage, on va faire travailler plus ceux qui ont déjà un travail, et en plus, on va faciliter les licenciements. Il y a quelque chose d'un tout petit peu étonnant dans la loi El Khomri de ce point de vue-là, mais j'espère qu'elle ne passera pas.
Laurent Bigorni.
Oui, là aussi, je peux pas être d'accord. La première chose, c'est qu'il faut considérer le travail également sur la durée du cycle de vie. Et ce qui est frappant, c'est que si on veut regarder les choses avec, lucidité, il faut aussi regarder quand est-ce qu'on part à la retraite. Or, nous, on est un pays qui cumule à la fois des durées annuelles qui sont assez faibles, et puis un départ à la retraite qui se fait assez tôt.
Donc des carrières plus courtes, est-ce que vous voulez dire ?
Des carrières plus courtes, oui, fatalement, puisqu'on a des durées d'âge et des durées d'assurance qui sont... plus courte que pas mal de nos voisins en Europe.
Bon, est-ce un problème, en soi ?
Au fond, si à la fin du jour, vous considérez que la richesse d'un pays, c'est sa quantité de temps travaillé, si vous avez à la fois des durées annuelles, des durées hebdomadaires et des durées sur le cycle de vie qui sont plus courtes qu'ailleurs, ça finit par poser problème. J'ajoute que ce qui est caractéristique aussi de notre pays sont les situations d'inégalité. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde, au final, les profils moyens de durée du travail en France ? On se rend compte qu'on a des fonctionnaires qui travaillent un peu moins que les autres fonctionnaires, voire substantiellement moins dans certains cas, notamment dans la fonction publique territoriale. On a des gens en CDI qui travaillent de façon assez objectivée, moins qu'ailleurs en Europe. Et on a des indépendants, et je pense pas seulement aux travailleurs pauvres qui n'existent pas en France comme il a pu être souligné en Angleterre ou en Allemagne. Là aussi, ce débat mériterait d'être, creusé. Il mériterait d'être creusé, il y a un salaire minimum. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des indépendants qui travaillent pour le coup, eux, énormément. Je pense aux libéraux. Et on a aujourd'hui de vraies disparités. On a de vraies disparités parce qu'on se rend compte qu'on travaille plus dans les petites entreprises que dans les moyennes et que dans les grandes. Et qu'on travaille beaucoup plus dans les petites entreprises que dans la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État. Que par ailleurs, ce sont les salariés des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui font l'essentiel de l'effort productif. Et que eux se trouvent avoir des durées de temps de travail plus importantes, moins de congés payés qu'en moyenne dans la fonction publique par exemple. Et des âges de départ en retraite et des niveaux de liquidation de leur pension qui sont inférieurs. Et donc, il faut aussi considérer ces inégalités-là.
Mais justement, vous semblez faire tous les deux le même constat, à savoir celui d'un marché du travail très inégal. Donc, Laurent Bigorni, même question qu'à Sandrine Rousseau. Les 35 heures accentuent-elles ces inégalités ou bien permettraient-elles de les résoudre ?
Mais je pense qu'en réalité, les entreprises face aux 35 heures soit souffrent, soit s'en accommodent quand elles en ont les moyens. Et objectivement, pour moi, la situation n'est pas idéale. Et la vraie problématique qu'on avait énormément regardée dans notre rapport de 2014 sur le temps de travail, c'était comment, dans certains endroits de la fonction publique locale, par exemple territoriale, arriver au moins aux 35 heures. Parce qu'il y a une exigence productive qui pèse évidemment sur le salarié, qu'on ne va pas retrouver parce qu'il n'y a pas le même type de management, il n'y a pas le même type d'incitation dans la fonction publique. Mais la fonction publique, c'est 5,5 millions de salariés aujourd'hui dans ce pays. Et de ce point de vue-là, il y a des situations inégalitaires qu'on oublie toujours. Toujours de souligner. Je suis là pour fustiger personne, mais il faut, à un moment ou à un autre, rappeler la vérité des faits.
Sandrine Rousseau.
La question, c'est pas les fonctionnaires contre les salariés du privé. Et les fonctionnaires travaillent le nombre d'heures légales qui est 35 heures. Et beaucoup font des heures complémentaires et des heures sup. Et il y a en plus beaucoup de pauvreté dans la fonction publique. Enfin, je trouve qu'on est quand même dans des clichés là qui sont étonnants. Ce que je voudrais dire, c'est que quand vous dites, si on considère que la richesse d'un pays, c'est le nombre d'heures travaillées. Moi, je pense que la richesse d'un pays, c'est bien d'autres choses que le nombre d'heures travaillées. Et que ça n'est pas qu'une richesse économique d'ailleurs, que c'est aussi l'égalité par exemple, a un coût pour la société beaucoup moins important que l'inégalité. Les inégalités, et ça il y a des livres qui montrent ça de manière magistrale, les pays les plus inégalitaires sont aussi les pays où il y a le plus de délinquance, où il y a le plus d'emprisonnement, où il y a le plus de maladies. Et au final c'est un coût pour la société, toutes ces choses-là. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose c'est que quand on dit on part à la retraite trop tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a un sujet particulier qui est que les salariés de plus de 55 ans sont assez massivement au chômage. On a les jeunes et on a les salariés de plus de 55 ans. Et la loi sur les 35 heures avait justement permis d'aller rechercher des personnes de plus de 55 ans. C'est la catégorie qui avait le plus bénéficié des 35 heures. C'est-à-dire qu'elles ont été massivement embauchées dans les entreprises, notamment parce que ces personnes avaient des savoir-faire et que dans les rotations de personnel dans les entreprises, et bien du coup elles pouvaient prendre leur place très facilement. Les 35 heures ont permis d'aller chercher, comme jamais aucune autre loi sur le travail, des gens en situation de chômage de longue durée. Et ça, aucune autre loi sur le travail n'a permis d'aller rechercher ces personnes qui petit à petit s'appauvrissent parce qu'elles appauvrissent leurs connaissances et leurs compétences. Et derrière, avait permis au final d'avoir un point de croissance, si on reprend même la mesure de la croissance, que moi je n'aime pas, mais admettons que la croissance soit un indicateur de richesse, eh bien, pendant la mise en place des lois de 35 heures Aubry 1 et Aubry 2, la France a eu un point de plus de croissance que la moyenne européenne, ce que l'on n'a jamais retrouvé depuis.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon. Les 35 heures sont-elles responsables de tous nos malheurs? On en débat ce soir avec Sandrine Rousseau, économiste et maître de conférence à l'université Lille 1 et porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts, et Laurent Bigorgne. Alors dans la série justement du bilan des 35 heures, il y a ce chiffre 350 000 postes créés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat aujourd'hui, voilà, entre à peu près 1997 et 2002, plus 350 000 emplois? Ça fait rêver aujourd'hui, Laurent Bigorgne.
Oui, ça fait rêver. J'y reviens dans un instant parce que j'aimerais quand même répondre à Sandrine Rousseau sur un point. Si on prend l'enquête INSEE, je prends la dernière qu'on avait en 2014, celle de 2010, on se rend compte que le nombre moyen de jours de congé est de 45 jours ouvrables, 7,6 semaines pour les trois volets de la fonction publique. Il est de 36 jours ouvrables, soit 5,9 semaines dans le secteur privé. Donc à la fin du jour, je laisse les auditeurs libres, je dis juste qu'il y a aujourd'hui des inégalités qui sont profondes, elles se font sur ces durées annuelles, elles se font sur le cycle de vie.
Mais c'est pas ça qui va relancer la croissance.
Mais c'était juste pour vous répondre, si vous me disiez qu'il n'y avait pas d'inégalité.
Non, j'ai dit qu'il y avait des situations très précaires aussi dans la fonction publique et qu'il y a des clichés beaucoup trop forts que vous véhiculez sur la fonction publique.
C'est pas un cliché du tout.
Ce que je vous propose, c'est qu'on reprogramme bientôt un débat sur la fonction publique et puis du coup, qu'on avance un petit peu sur les 35
heures. On va avancer, mais vous voyez bien que ce débat sur les 35 heures ne concerne pas que le secteur privé. On sait aujourd'hui, il est communément admis aujourd'hui que les difficultés d'organisation du travail hôpital viennent très largement de ce qui s'est passé en 98 et 2000. C'est pas moi qui l'écris, la Cour des comptes écrit. Alors maintenant, s'agissant des 350 000 emplois, je lis évidemment Madame Rousseau, je lis aussi Pierre Cahuc, Zingerberg ou Stéphane Carcio, je lis les rapports du CAE, du Conseil d'analyse économique, et on voit quoi? On voit qu'on est capable de lier, en très grande partie, les emplois créés sur la période à deux choses, à deux facteurs. Premièrement, effectivement, à l'époque, une meilleure croissance que la croissance potentielle que nous avons aujourd'hui. Voilà, c'est un fait. Deuxièmement, à quoi ont correspondu le choc macroéconomique des 35 heures? À un allègement du coût du travail, qui est du même ordre que celui qui a eu lieu, par exemple, en 2008, quand il a été décidé, unilatéralement et très rapidement, d'alléger totalement, d'exonérer totalement de charges sociales les emplois au niveau du SMIC dans les petites entreprises. Et quand vous comparez d'ailleurs les deux mouvements, vous vous rendez bien compte que c'est pas la durée du travail qui a fait baisser le chômage, c'est l'allègement du coût du travail, notamment des charges sociales pesant sur le travail non qualifié. Et vous prenez les études, par exemple une étude qu'a menée Étienne Vasmer, autre économiste, qui montre bien qu'il n'arrive pas à trouver en France, à l'époque où on a fait les 35 heures, de corrélation entre des créations d'emplois. Il prend l'Alsace, où on n'a pas organisé les 35 heures comme ailleurs en France, et les autres régions. Dans les autres régions où on a plus diminué le temps de travail qu'en Alsace, on n'a pas trouvé davantage d'emplois de créés.
Sandrine Rousseau, les 35 heures permettent de créer de l'emploi parce qu'en fait, elles ont permis de baisser le coût du travail.
Elles n'ont pas permis.
Elles ont induit.
On a décidé parce qu'on faisait perdre
par
en productivité. Comment ?
Non,
par,
pas seulement. On a gagné en productivité. Non, on a gagné.
On a baissé le niveau des charges sociales à l'époque pour financer effectivement ce surcoût qu'on imposait aux entreprises.
Non, pour financer la création de nouveaux emplois. Enfin, c'est intéressant que vous citiez Cahuc, l'économiste Cahuc, parce que finalement, c'est lui qui, en trois articles, a décidé de ce débat sur les 35 heures. C'est-à-dire qu'il a sorti trois articles et l'intégralité des études qui se reportent après sur le coût des 35 heures pour dire qu'il y a eu un coût pour la société important et zéro création d'emploi se fondent toutes sur ces trois articles-là. Que par ailleurs, un autre économiste qui s'appelle Husson a décortiqué et a montré que l'élasticité... Je ne vais pas rentrer dans le calcul, dans le détail des calculs, mais grosso modo, les calculs de Cahuc se sont trompés à peu près à hauteur de 30 fois la réalité. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans quelque chose dans l'épaisseur du trait, quoi. Et pourtant, il y a une référence un peu circulaire à ces articles-là. Ce que je veux dire, c'est que les 35 heures ont permis de créer uniquement les 35 heures 350 000 emplois. Ça, c'est le chiffre qui est maintenant consensuel chez les économistes.
Ce qu'il faut dire en plus, c'est que
entre 1998 et 2002, ou entre 97 et 2001 selon les études, 2 millions d'emplois ont été créés en France. C'est-à-dire que c'est une période durant laquelle on a créé 2 millions d'emplois, alors que la population active augmentait en plus. Donc on a créé 2 millions d'emplois et 350 000 de ces 2 millions sont liés aux 35 heures de manière stricto sensu. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que sur les 2 millions d'emplois qui ont été créés, une partie est aussi imputable aux 35 heures. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand je parle des 350 000, c'est vraiment le chiffre le plus restrictif que l'on puisse prendre. Et c'est justement en comparaison avec des situations où il n'y avait pas d'accord et on a pu comme ça estimer la différence. Le chiffre le plus probable, et celui qui est quand même à peu près estimé comme possible, c'est que les 35 heures aient créé en réalité 700 000 emplois. Donc ce que je veux dire c'est que même si on prend 350 000, qui aujourd'hui est un chiffre consensuel, qui est repris par la d'Arès, par l'INSEE et par d'autres organismes internationaux, c'est 350 000 emplois. Aucune autre politique de l'emploi n'en a jamais créé autant.
Mais alors, comment vous expliquez, Sandrine Rousseau, qu'aujourd'hui, justement, puisqu'on cherche par tous les moyens à réduire le chômage, on ne passe pas, à la semaine de 30 ou 32 heures si ces politiques ont eu les effets que vous décrivez sur le chômage?
Mais parce que je pense qu'on est dans un blocage idéologique complet sur cette question-là et que les 32 heures seraient un moyen, en l'occurrence, de créer beaucoup d'emplois. Et alors, moi, je pense qu'on peut pas revenir à 32 heures sur la semaine très facilement, mais par contre, ce qu'on peut faire beaucoup plus facilement, c'est de réduire la durée du temps de travail tout au long de la vie et notamment en laissant aux salariés des droits à la formation beaucoup plus importants qu'ils ne l'ont actuellement, avec des temps de pause dans leur vie professionnelle, de 6 mois par exemple tous les 4 ans ou de 1 an tous les 10 ans où ils se forment, où ils ont une formation qualifiante, ça leur permet d'accroître leur employabilité et leur progression de carrière et en plus ça permet de limiter la durée du travail. C'est Guillaume Duval qui en parle et quand il en parle, il estime que ça peut créer ne serait-ce que 150 000 emplois, ça tout de suite immédiatement. Donc,
sur un coin de table.
Il faudrait... Guillaume Duval soit
meilleur économiste que Pierre Cahuc, qui est professeur École Polytechnique, qu'Étienne Vasmer, qui est professeur à Sciences Po, que Stéphane Carcio,
il est professeur aussi.
Il y a un moment
aussi,
où il faut dire d'où on parle, qui est professeur. Donc,
Jean Gadret, il est professeur d'économie.
Et qui est à l'OCDE aujourd'hui. Kösing Berberg, qui est au CNRS. Donc, le problème, c'est que je trouve que vous délégitimez assez rapidement le travail de vos confrères. Maintenant, sur la formation professionnelle, pour vous répondre, on y consacre 35 milliards. presque deux points de PIB. Je pense qu'on est exactement d'ores et déjà en situation de se dire qu'on y consacre beaucoup d'argent pour une très faible efficience. Donc, reparlons de l'emploi. Je redis parce que je pense que c'est important, me semble-t-il, de fixer les choses. On a pu créer des emplois quand on a baissé le coût du travail, particulièrement des non-qualifiés, parce qu'à chaque fois qu'on fait, et on l'a refait en 2008, on obtient ce type de résultat avec des élasticités très très fortes.
Quand 0,08.
Quand en 2008, Nicolas Sarkozy décide d'abaisser unilatéralement le coût du travail dans les petites entreprises s'agissant du travail non-qualifié, on a des élasticités de 2.
Non, hein non.
Mais bien sûr, ça a été montré par une étude microéconomique.
Ça a été démontré. La TVA dans la restauration, c'est 150 000 euros par emploi.
Concernant la durée légale, à l'Institut Montaigne, si je ne me trompe pas...
Je n'ai pas parlé de la TVA, j'ai parlé des allégements de charges. Ça n'a rien à voir.
Laurent Bigorgne, à l'Institut Montaigne, vous préconisez-vous un retour aux 39 heures?
Comment? Bien sûr, oui. Nous on pense qu'il y a deux compartiments. Je pense qu'il faut sérier les questions. Il y a un premier sujet, encore une fois, qui est la fonction publique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas rester dans une situation d'appauvrissement de la fonction publique, parce que, j'écoute Sandrine Rousseau, passons demain aux 30 heures dans la fonction publique. Hein, donc
mais
abaissons... Baissons le temps de travail de 20% dans la fonction publique.
Ouais, c'est
ça veut dire quoi? On recrute demain 10 ou 15 ou 20% de fonctionnaires en plus? Non mais j'aimerais juste comprendre comment on va faire. Et budgétairement, on les paye comment? Donc j'aimerais vous entendre sur ce point-là. Je vous rends mon temps de parole, vous voyez. Si demain... on abaisse le temps de travail dans la fonction publique de 20%, à l'hôpital, dans la police, dans l'éducation, pour les certifier, les agréger, etc. On recrute 20% de fonctionnaires en plus.
Mais vous savez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, parce que quand on diminue le temps de travail, on embauche des personnes. C'est-à-dire que ça ne se fait pas à nombre de personnes égales. Et embaucher des personnes, ça signifie diminuer le chômage. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez simple à comprendre, qui est que plus vous augmentez le temps de travail des personnes qui sont déjà en emploi, moins vous recrutez de nouvelles personnes. Et donc, vous ne pouvez pas lutter efficacement contre le chômage en continuant à augmenter les temps de travail.
C'est-à-dire qu'on va recruter 20% de fonctionnaires en plus sur les emplois... Vous pouvez me répondre, Sandrine, à cette question. Est-ce qu'on va recruter 20% de fonctionnaires en plus, et avec quel argent?
Enfin, il n'est pas question de passer à 30 heures dans la fonction publique. Moi, je souhaiterais qu'on parte.
32 heures.
Sandrine Rousseau, que le coût de la réduction de temps de travail est compensé par le fait qu'il y a moins de chômage et que donc le coût du chômage baisse.
C'est compensé par plusieurs choses. C'est compensé par le fait qu'il y a moins de chômage et qu'il y a donc moins d'allocations de chômage à verser. C'est compensé aussi par le fait que ces personnes-là consomment davantage, et donc quand elles consomment, bah, elles payent des impôts, elles payent de la TVA, elles payent des choses. Et au final, par exemple, si on regarde le coût sur les finances publiques qu'ont représenté les 35 heures, c'est un coût d'à peu près 13 milliards d'euros par an. Ça, c'est hors recettes, c'est-à-dire hors ce dont je vous parlais, diminution des allocations chômage, quand le CICE dont on parle aujourd'hui coûte 33 milliards d'euros par an, c'est-à-dire que c'est trois fois plus pour un nombre d'emplois créés trois fois moindre. Enfin, l'efficacité de ces politiques n'existe pas en réalité, c'est une gabegie d'argent public, mais simplement il y a quelque chose de l'ordre d'une doxa libérale qui s'interdit d'entendre et de reconnaître ces chiffres-là, qui sont pourtant des chiffres tout à fait officiels.
Précisément sur ce point-là, Laurent Bigorgne, le CICE a coûté plus cher que les 35 heures pour moins d'efficacité en termes d'emploi?
Le CICE a coûté, coûtera plus cher que 13 milliards par an, puisque on sait que le gouvernement a fixé des prévisions. On verra, et France Stratégie est en train de regarder ce que sera son contenu en emploi. Il faudra regarder évidemment et sereinement son contenu en croissance aussi, sur des durées plus ou moins longues. Hein. Je suis pas là pour me faire l'avocat de telle ou telle politique publique, mais c'est pas exactement le même genre de politique.
Vous le faites bien pourtant.
C'est pas exactement le même genre de politique. On va s'arrêter un instant sur cette idée qu'il y a une substituabilité. C'est-à-dire qu'au fond, si je dis à des gens « vous allez travailler moins longtemps », on va faire entrer plus de gens, c'est-à-dire qu'on va partager le gâteau. Le problème du chômage en France aujourd'hui, c'est principalement un problème de qualification. C'est-à-dire qu'on a un chômage qui, pour 80%, est expliqué malheureusement par une absence de qualification des chômeurs en question. Soit qu'ils sont sortis sans diplôme, soit qu'ils ont été malheureusement en situation d'entrée sur le marché du travail et que leur emploi a été détruit, et que même si on y consacre beaucoup d'argent, je le disais tout à l'heure, on a un système de formation professionnelle qui est anti-redistributif, qui s'adresse d'abord et avant tout aux salariés déjà les plus qualifiés. C'est pour ça que nous on propose de réorganiser complètement pour en faire profiter évidemment les salariés qui sont les moins qualifiés ou les chômeurs. Et donc moi je dénie complètement l'idée, enfin je refuse l'idée, pardon, que demain, en demandant à des gens plus qualifiés de partager leur temps de travail, on va faire entrer des gens qui sont très peu qualifiés sur les mêmes emplois.
Est-ce qu'on peut pas imaginer de faire les deux, Laurent Bigande, c'est-à-dire à la fois partager donc ce fameux gâteau de l'activité et en même temps améliorer l'accès à la formation et la formation de ceux qui sont le moins qualifiés.
Derrière le gâteau, parce que il faut pas employer des images qui empêchent de comprendre la réalité, il y a une différence qui est bien apparue, je pense, entre Sandrine Rousseau et moi, c'est que moi, je suis pour que le pays continue à croître dans le temps à un rythme de 2, 2,5, 3, 4%. Je pense qu'on a, vis-à-vis de la croissance, pas du tout la même approche. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que le gâteau, on n'est pas là à le partager, on est là à faire qu'il grossisse et qu'il puisse croître pour tout le monde. Et qu'effectivement, on retrouve le plein emploi par une politique où on permettra aux chômeurs aujourd'hui soit de se qualifier, soit d'accéder, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, les deux, accéder à un emploi. Mais parce que je crois, moi, fondamentalement, qu'il faut de la croissance et qu'il faut des politiques de croissance.
Il reste 30 secondes, Sandrine Rousseau, s'il vous plaît.
Juste pour dire sur la croissance que la croissance, faut savoir de la croissance de quoi pour qui. Et la croissance comme chiffre absolu n'a pas de signification. Ça ne dit rien de l'augmentation des inégalités. Ça ne dit rien du fait, par exemple, si vous avez une marée noire demain, c'est l'exemple qui est le plus connu, mais si vous avez une marée noire demain au large des côtes aquitaines, eh bien ça augmentera la croissance. Moi, je ne veux pas de cette croissance-là. Et justement, la question de savoir quelle société on dessine est au cœur de nos discussions. Et finalement, derrière des batailles de chiffres, il ne faut pas se voiler la face. C'est ça qui est en jeu. C'est quelle société on dessine. Est-ce que c'est une société où on perd sa vie à travailler et où les autres perdent leur vie à être dans la précarité et dans la pauvreté? Ou est-ce que c'est une société où on partage les ressources rares? Le travail est une ressource rare aujourd'hui dans notre société avec 6 millions de chômeurs et il faut qu'on partage ce travail. C'est indispensable. Ça permet juste d'être en cohésion et de faire société.
Dernière séquence du Grain à Moudre, comme chaque vendredi, nous retrouvons l'Obs et les pages débat avec vous. François Armanet, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous nous parlez ce soir du destin des Juifs français dans la République à l'occasion d'une rencontre exceptionnelle entre deux grands historiens français, Pierre Birnbaum et Pierre Nora.
Oui, rencontre entre les deux Pierre. Ça s'est passé au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. C'était animé par Rod Lancelin. Effectivement, on avait d'un côté Pierre Nora, qui est le fondateur de la revue Le Débat, académicien, et puis surtout le maître d'œuvre des lieux de mémoire, et de l'autre côté Pierre Birnbaum, professeur émérite à la Sorbonne, mais surtout l'auteur de Des Fous de la République, cette histoire politique des Juifs d'État qui est aussi un monument dans son genre. Donc aujourd'hui, alors qu'effectivement les réflexions sur le destin des Juifs dans notre pays, avec le fait que le djihadisme désigne très directement à nouveau les Juifs comme cible, mais en tout cas c'était ce débat sur la place des Juifs, sur la question de est-ce qu'on vit un moment historique du rapport entre les Juifs et la France, ou est-ce que c'est une péripétie, et à ce moment-là, laquelle, sachant que entre les Juifs et la France, il y a toujours une espèce de pacte historique, ça c'est ce que dit Pierre Nora, qui a fait de la France un des laboratoires du destin juif les plus importants, et en particulier parce que la France a été la première à les émanciper.
Et j'imagine, François Armanet, qu'ils sont aussi revenus sur les différents types d'antisémitisme qu'il existe en France.
Oui, absolument, mais surtout aussi sur la question de comment repenser la laïcité aujourd'hui, c'est-à-dire du côté de Pierre Nora. Ça, c'est nouveau, en tout cas dans sa bouche. Il est pour le respect profond d'une laïcité à la française, mais tout en disant que le texte de 1905 n'est pas adapté à notre temps. Il donne un exemple, que des femmes refusent une consultation faite par un homme à l'hôpital n'est pas acceptable. En revanche, que les enfants aient le choix entre un menu avec viande et un menu sans viande ne lui paraît pas un scandale, quoi. Et du côté de Pierre Birnbaum, il y a aussi, malgré tout, en ce moment difficile, je dirais la même ouverture à propos de la laïcité. Lui aussi pense qu'elle pourrait être l'objet de nombreuses adaptations plus pragmatiques pour réduire les tensions et faciliter l'intégration au lieu d'inciter à l'exclusion.
On peut dire que les historiens, ces deux grands historiens, étaient donc plutôt d'accord sur les constats.
Oui, plutôt d'accord sur les constats, avec en tout cas quelques vieilles oppositions qu'ils avaient entre eux, et d'une certaine manière, ils se sont réconciliés sur le parcours juif et en tout cas sur ce moment qu'on vit.
Un dialogue donc à retrouver dans les pages débat de l'Obs, un dialogue entre Pierre Nora et Pierre Birnbaum. Merci beaucoup François Armanet et merci beaucoup à nos deux invités de ce soir d'avoir bien voulu débattre sur cette épineuse et passionnante question de la réduction du temps de travail. Merci Sandrine Rousseau, économiste et donc porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts. Merci Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne. Commentaires, réécoute, podcast, c'est sur notre site franceculture.fr, du grain à moudre. Une émission préparée par Céline Leclerc, Cyril Baer, Fanny Richer et Hugo Florent. À la réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son ce soir, Édouard Rubinstein. Lundi, vous retrouverez Hervé Gardette au micro du grain à moudre avec cette question. La France renoue-t-elle avec le libéralisme ?